Salut Greg.
Salut Jean-Fred, ça va?
Ça va bien et toi?
Impeccable, ouais ouais, épisode du lundi, ça change, on fait concurrence au Pécaliste.
J'y serai après.
Salut, bonsoir.
Mais ça veut pas dire qu'on a la saison qui est terminée. La saison de hockey sur glace, on va dire championnat de Suisse, se terminera de toute façon mardi soir. Mais la saison de Colfax continue, puisqu'après il y aura le championnat du monde. Alors on verra comment on s'organise, mais...
Bien, toujours bien.
Avant cette finalissima, un terme qu'on va beaucoup lire, écrire, entendre ces prochains...
Je ne peux pas décider si j'aimais bien ce terme ou s'il me cassait les pieds, mais, ouais. Mais il existe, donc gardons-le.
Toi qui aimes bien les alémaniques et leur façon d'expliquer en un mot quelque chose, il se trouve...
On y est, hein, je suis d'accord.
Là, cette finalissima va exister parce que Lausanne s'est imposée samedi soir dans un match assez fou, finalement, dans un... Pour le dernier match, de toute façon, à Lausanne, c'était le dernier match de la saison. Donc, en entendant les gens arriver avant le match, ils étaient là. Au pire, de toute façon, on va dire merci et bravo aux joueurs. Donc, il y avait un sentiment assez positif, je trouvais, dans la part des gens. D'ailleurs, au passage, aussi salutations à Steve et Guillaume, qu'on a vu avant le match, qui sont venus parler un bon moment avec nous. C'était très sympa.
Et d'autres qui ont dit bonjour dans les couloirs aussi. C'est toujours un plaisir. Merci. Et puis, merci pour vos gentils mots. Ça fait vraiment toujours... Et on le répète chaque fois, mais c'est vrai, ça fait chaque fois toujours plaisir de voir des gens qui nous écoutent. Parce qu'encore une fois, on ne le fait pas pour nous. On le fait plutôt pour... être écouté. Donc si les gens nous écoutent et nous aiment bien ou nous font des remarques positives ou négatives, on a toujours être preneur si elles sont de bonne foi.
Exactement. Et ce match-là, ben, un match un peu fou, où il y avait 5-0 presque jusqu'à la fin du deuxième tiers, un but zurichois, et puis après Zurich qui revient, Lausanne qui se fait un peu peur, mais qui finalement arrive quand même à gérer cette histoire.
Je pense qu'il ne faut pas garder ce dernier tiers dans un coin de la tête et puis se dire que Lausanne a roulé sur Zurich pendant toute la soirée. Puis voilà, à la fin, ils sont un peu relâchés. C'est assez humain, j'ai envie de dire. Le samedi soir, tu joues, tu sais que du coup, tu mènes 5-0. Tu dis, bon, bah, super, on joue mardi à Zurich. Maintenant, le but, c'est de ne pas t'en prendre une. Parce que Zurich va venir comme des avions pour essayer de, je ne sais pas quoi, marquer les esprits. J'ai jamais compris ce concept, mais on en a déjà parlé ici. Mais ils vont venir marquer les esprits. Ouais, vous avez pris 5-0 après deux tiers, 5-1. Quels esprits vous allez marquer? À la limite, vous allez marquer notre corps et puis nous péter une jambe. Mais c'est tout ce que vous allez marquer. Donc, il y a ça à éviter. Il y a à éviter de faire le geste qui peut justement en réponse à un coup ou qui peut te faire suspendre pour le match d'après. Ou c'est difficile comme situation. Je ne veux pas dire que c'est un mauvais score à gérer, 5-0 ou 5-1. Je pense que je préfère être à 5-0 ou 5-1 qu'à 2-2 après deux tiers. Mais ça reste difficile parce que s'il n'y a que 4-1, tu te dis ouais, ils ne sont pas très loin quand même. Ils en mettent 1 et il se passe quelque chose. Là, à 5-1, tu te dis ouais, bon. Normalement, on ne va pas se planter. Donc, humainement, il y a un petit peu de relâchement. Je pense que... Et ils ne s'en cachaient pas vraiment en fin du match. Ils disaient, on a un peu lâché les gaz, comme l'a dit, je crois, Cody Almond, sauf erreur.
Ouais, exactement.
À la fin du match. Et moi, ce que je retiens, c'est le deuxième tiers. Mais j'ai l'impression qu'on dit ça dans chaque match. Chaque fois, c'est le deuxième tiers qui est... Et c'est fou. On essayait de réfléchir, justement, avec mon collègue de table l'autre soir. Mais pourquoi c'est toujours le deuxième tiers? Puis il dit, le banc est plus loin. Ouais, mais ce n'est pas la seule fois de la saison que le banc est plus loin. Il me semble que c'est tout le temps. Ce n'est pas la première finale où le banc est plus loin. Est-ce qu'il match mieux ses lignes des deux côtés pour mettre l'équipe en désavantage? Oui, mais ce n'est pas la première fois non plus en saison de hockey, en 100 ans de hockey, que les coachs matchent leurs lignes. Pour moi, c'est une inconnue totale, en fait, ce deuxième tiers. Et pourquoi il se passe tout le temps beaucoup plus de choses dans ce deuxième tiers? Est-ce que c'est juste un peu dit au hasard? Et là, il y a les buts qui tombent à ce moment-là, mais sans vraie raison. Des fois, il faut aussi accepter qu'il n'y a pas forcément de raison. Toujours est-il que Lausanne a... Alors là, on peut clairement dire étalé Zurich pendant le deuxième tiers. Il y avait 1-0 assez rapidement, puis il y en a eu 4. Quasi, pas coup sur coup, mais en moins de 10 minutes, ça fait rare.
Ouais, même 5, si on estime qu'il y en a un qui s'est fait encore annuler.
Ouais, il n'est pas compté celui-là. Ouais. Donc il y en a eu 4 en moins de 10 minutes. C'était assez impressionnant à voir. Et j'avais l'impression qu'à chaque voyage, ils en plantaient un. Rubec n'a pas été très bon, mais en même temps, je vais en tout cas pas blâmer Rubec parce qu'il n'y a pas grand-chose à lui redire sur ses buts.
Non.
Je veux dire, tu laisses Damien Ria arriver tout seul, ben, c'est compliqué. La passe de Kovacs... pour Fuchs, brillant. Ouais. J'ai pas d'autre mot, brillant. D'ailleurs, Fuchs, il me dit lui-même, c'est un penalty. T'as presque envie de dire, mais c'est même, t'as plus de chances de marquer qu'un penalty, quoi, à ce niveau-là. Après, là, le centre de Kovacs pour IA, seul deuxième poteau. Bon, là, c'était plus Roubaix, là, c'était déjà de son nul. Mais peu importe, les buts lausannois, ils sont juste magnifiques. Et la défense zurichoise a pris l'eau, c'est pas le gardien. Et moi je suis sorti de cette rencontre avec un sentiment assez très positif même. Et pour moi, il y a une nuance entre ce match-là et le match d'avant où j'étais un peu plus mitigé. Mais parce que
le match d'avant à Lausanne, tu veux dire, donc la victoire 5-2.
Voilà. Ouais. Où moi, là, je me suis dit, ok, ils font un gros match, mais laissons-nous pas aveugler par le score. Et là, c'est plutôt à l'inverse. Laissons-nous pas aveugler par le retour zurichois. Et le match numéro 4 à Lausanne, moi j'ai trouvé Zurich très solide. Le match 6 à Lausanne, pas du tout. Et pour moi, il y a une énorme différence entre les deux matchs, alors que le score est, si on veut bien, plus serré.
Oui, oui.
Et tu peux un peu dire, ouais, il y a eu un peu la chiasse à la fin, vaguement. S'ils mettent le 5-4, là, on rigole. Mais à 5-3, ça va, on va pas s'exciter. Et moi, j'ai été beaucoup plus impressionné par la Lausanne de ce samedi que la Lausanne de mardi dernier. Je sais pas si tu partages ou si c'est mon impression.
Ça. Non, c'est clair qu'après deux tiers, et si on fait abstraction du goal de Baltisberger, le nombre de shoots, c'est quoi? Ça doit être un truc style 28-14, ça doit être le double. Il y a... Ce qui est drôle, c'est qu'aux expected, mais là non plus, je leur donne pas forcément une grande importance sur un match comme ça, parce qu'il faut voir beaucoup plus large, et tu l'as très bien dit. Je crois qu'après 20... Qu'est-ce que c'est quoi? Après 22, 23 minutes, c'est quasiment égal. Puis après, Lausanne s'envole. Mais si, au final, selon les statistiques, Lausanne aurait dû gagner 2,7 à 2,1. Ce que je trouve là aussi un peu absurde.
Non, non, mais là, ça n'a aucun sens. C'est 2,30 à 1,09 après deux tiers. Pour moi, c'est là, c'est ce qui est intéressant. Ce qui se passe dans le dernier, comme on le dit très souvent, ouais, à ce micro, Zurich va pousser, Lausanne va un peu plus défendre. 1,05 expected goal pour Zurich pendant le dernier tiers tout seul. Donc la moitié de leurs chances de but sont dans le dernier tiers quand il y a 5-1. Ça n'a aucun sens. C'est Lausanne a étalé Zurich pendant deux tiers temps. C'est ça qu'on doit retenir.
De mais tu disais aussi 2,3.
De 7 à 2,1. Mais 2, là, il y a 2,3 après deux tiers pour Lausanne.
Et il y a 5 goals.
Ouais.
Voilà. Donc c'est pour ça que les chiffres, quand tu regardes le match, quand tu vois le momentum, quand tu vois tout ce qui se passe, encore justement ce goal annulé, même s'il y avait une obstruction, tu te disais, ouais, c'était dingue d'imaginer ça en finale entre ces deux adversaires-là. Il y a une, je ne sais pas si c'est pas avec toi qu'on discutait de ça, et quelqu'un disait, attention quand même pour Lausanne, et je crois que tu l'as juste évoqué au début de l'épisode, quand il y a 5-0, à quel moment tu te dis, ouais, on ne veut pas leur donner une raison de plus, justement de les étaler finalement ce 5-3, tu peux voir que Zurich est revenu et que c'était aussi un petit coup pour Lausanne de dire, si vous vous relâchez, voilà ce qui peut se passer. Mm-hmm. Donc c'était assez bien pour, je pense, pour Jeff Ward de dire, les gars, rien à vous dire sur le fait que bravo, on a un Game 7, mais vous avez vu, à peine vous vous relâchez en face, il n'a pas besoin de leur dire.
Ouais, hein. Je posais la question, justement, exactement cette question-là à Kovacs à la fin du match, en disant, mais et si finalement c'était une bonne chose, ce dernier tiers pour vous, puis il a un peu rigolé, il a dit, bah, maintenant qu'on a gagné, je peux entendre que tu dis ça, et je suis d'accord avec ce point-là, en disant, bah, au moins on a vu à quel point Zurich était menaçant. Maintenant, à choix, on aurait préféré pas faire un mauvais dernier tiers. Après, j'ai posé la question à Fuchs, je dis, mais alors habituellement, on dit qu'on commence un match comme on a fini le dernier. T'en penses quoi de cette phrase-là? Puis il a dit, ouais, on va commencer un match 7, ça n'a rien à voir, c'est les playoffs et c'est un nouveau match qui commence. Évidemment, il ne va pas me dire l'inverse. Et je parie qu'il y a Zurich, si tu leur poses la question, il fait, ouais, on est convaincu que là, on va commencer fort. Là, ce qu'il faut juste se rendre compte, c'est que dans la tête des gars, d'un côté comme de l'autre, et vraiment, je crois que ce n'est pas des phrases pour les journalistes, à 23h, ce match a été complètement oublié.
Bah, c'est un petit peu comme disait Genazzi lors du match précédent. Ouais. Il dit, désolé les gars, moi ce match il est déjà oublié, je suis déjà samedi.
Voilà.
Et je pense qu'effectivement, les Zurichois, ils étaient déjà mardi en disant, ok, c'est bon.
D'ailleurs, le petit reportage est assez rigolo de Marcel Alemán dans la patinoire de Zurich, qu'on aurait également fait si Lausanne pouvait gagner le titre à Zurich en cas de match 6. Bah, c'est logique, tu vas voir. Et d'ailleurs, on aura quelqu'un au match mardi soir à Lausanne pour soit rendre compte de la fête, soit rendre compte de la soirée. Win or lose, on va dire.
Ouais.
Et ouais, il raconte dans ses mots, en tout cas, et c'est moi qui ai fait la traduction, il y avait une très grande confiance avant le match quand même. En gros, c'est ce soir, on peut pas aller perdre. Je pense pas que les gens pouvaient le penser. En tout cas, je pense que l'équipe pas du tout. Mm-hmm. Mais ils ont pris un coup sur la tête quand même. C'est une évidence. Tu peux pas être à 60 minutes d'un titre et donc de ta fin de saison et donc de pouvoir partir en vacances. On repart à Zurich. L'ambiance dans le car, c'est que ça doit quand même pas être la grande joie.
Ouais.
Et il faut repartir au charbon. Hein. C'est un dimanche probablement de congé. Lundi sur la glace, mardi sur la glace au matin pour le morning skate. Et puis c'est reparti pour un tour. Et ça, mentalement, ça doit quand même pas être évident. Après, c'est pas pour autant que tu perds obligatoirement le prochain match. On est bien d'accord. Mm-hmm. Mais mentalement, de se relancer, ça doit vraiment être dur. Mais Genève était dans le même cas, hein, si on se rappelle, pile l'année passée. Ils pouvaient aller gagner le titre à Bienne. Ils sont allés perdre à Bienne. Ils sont rentrés et ils ont gagné à la maison.
Ouais.
Mais ça demande une force mentale qui est assez, assez impressionnante.
On y était, hein, donc on peut aussi... les souvenirs sont relativement frais de cette finale de l'année passée. Là aussi, en discutant avec les gens au début, et je me rappelle avoir discuté avec l'ancien photographe Eric Lafargue qui disait « Honnêtement, je pense un 4-5-1 pour Genève. » Et il ne le disait pas avec... arrogance, il était convaincu, il disait non, je vois le truc. Et quand Vatanen ouvre la marque avec son solo, et qu'après tout s'enchaîne, je me suis dit, ouais, il a raison. C'est effectivement, il avait senti le truc, que Genève était, il y avait ce côté en mission. Et j'essaye de me demander si Zurich, à un moment, a été en mission. Zurich était favori vraiment, tandis qu'entre Genève et Bienne, c'était assez égal. Puis après, il y avait quand même, on se disait, en faisant les rapports de force, ouais, mais quand même, si les étrangers de Genève arrivent avec l'avantage à domicile, quand même, avantage à Genève. Là, on peut se dire qu'effectivement, de la même manière, avec Malguin, Andrighetto et compagnie, avantage à Zurich. Mais Lausanne a tellement prouvé qu'ils n'avaient rien à perdre. Moi, c'est un peu ça que je mets dans la balance de ce côté-là, et que les statistiques... des matchs 7, puis après il y a des matchs 7 en finale qui font que les statistiques des matchs 7, c'est 80-20 à peu près, en gros, hein. Puis c'est 50-50 dans les matchs 7 en finale. C'est assez drôle de voir que tout d'un coup, alors l'échantillon est un petit peu plus faible, mais quand même, on est sur du équivalent.
Ouais. Il y a eu 8 matchs 7 en National League depuis l'arrivée des playoffs en 7 matchs. Il y a eu 4 victoires à domicile, 4 victoires à l'extérieur. Et avant les deux dernières saisons, donc victoire de Zug contre Zurich 3-1 et victoire de Servette contre Bienne 4-1, c'était 2-4 les statistiques. Ce qui est quand même assez dingue, des victoires de Zurich à Lugano, de Zurich à Berne.
On s'en souvient, McCarthy à 2 secondes.
Clairement.
Hein.
De Zurich à Lugano.
Oui.
Zurich a gagné 3 fois à l'extérieur. 3 des 4 victoires à l'extérieur ont été remportées par Zurich. Effet assez rigolo, Zurich n'a jamais gagné de match 7 à la maison.
Ouais.
Tu me diras, ils n'en ont jamais perdu non plus.
Absolument.
Donc, mais ça va être intéressant. Je te propose qu'on parle du match d'après un petit peu plus tard. Mm-hmm. Moi, je voulais quand même revenir encore 2 secondes sur...
bien sûr.
Ou 3, on verra. sur Christian Jost. Mm-hmm. Depuis le début de ses playoffs, j'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé de Pilot parce qu'il est un peu plus flashy, parce qu'il est un peu plus offensif. Donc, on le voit forcément un tout petit peu plus. Mais j'ai... Je suis match après match assez impressionné par Christian Jost, par sa sérénité, par son calme, par le fait que ses jeux sont souvent justes, voire toujours justes. J'ai un shift en tête du match de samedi, je ne sais plus à quelle minute il était, où en gros on se retrouve avec un 2 contre 1 potentiel de Zurich, il court en zone défensive pour récupérer un puck, et là il a deux Zurichois sur le dos, hop, petit tour sur lui-même, il met les deux dans le vent et il repart tranquillement vers l'avant. Et c'est le genre de petit jeu où, oui, ça te donne pas de points à Hockey Manager, ni t'as pas le casque jaune sur la tête après ça, mais ça démontre une sérénité absolue. Et c'est ce genre de petits jeux-là qui font que, bah, justement, t'es pas sous l'eau. À l'inverse, et pourtant j'aime beaucoup ce joueur et je pense qu'il fait une très belle finale aussi, à l'inverse justement d'un Pilot où, c'était avec Mathias qu'on en parlait, il y a deux relances un peu foiré contre Zurich, qui mettent un petit peu l'équipe dans la panade. Par chance, il n'y a pas de but derrière, tout va bien, mais il en fait une ou deux par match, où tu sais, c'est un jeu à haut risque. C'est aussi pour ça qu'il va être à l'origine de plein de passes, parce qu'il va faire des longues passes vers l'avant, parce qu'il va prendre, il a un jeu beaucoup plus risqué. Et finalement, ils sont complémentaires, ces deux étrangers-là, entre un peu plus fiable et un peu plus défensivement serein, et l'autre un peu plus feu follet, on va dire, et qui va plus oser aller vers l'avant. Et si les deux étaient comme Dios, ce serait chiant, je pense. Ce serait peut-être moins, il y aurait moins de succès. Si les deux étaient comme Pilot, on aurait un problème aussi. Mm-hmm. Là, l'équilibre est vraiment bon, je trouve.
Ouais, c'est juste. Dios, c'est quand même un titre, une Coupe Stanley et un titre de champion avec Zug.
Oui.
Donc lui, il a aussi vécu ce match 7. Je crois que tu en avais parlé d'ailleurs, hein, de ça, de la remontée finalement, hein, de 0-3 à 4-3. Et la paire avec Glauser est vraiment très solide. C'est quand même potentiellement une des meilleures paires défensives de Suisse. Je pense que, en réfléchissant rapidement, c'est surtout que. Alors, on a toujours l'image du dernier match. Et le dernier match, Zurich, que ce soit Lettonen, qui est pourtant très bon d'habitude, que ce soit Kukan, à un moment, ils ont fait tellement de bêtises à la relance. Ils ont essayé de faire des jeux, ils poussaient le puck, puis ils se sont fait contrer, puis ça a créé des 2 contre 1. Il y a même eu un 3 contre 1 que Lausanne n'a pas su concrétiser grâce à une quatrième ligne extrêmement efficace. Il faut aussi relever, et c'est drôle parce que au début des playoffs, honnêtement, la quatrième ligne, déjà Kenin, je ne sais même pas s'il était absolument titulaire indiscutable, c'était Holdener allemande, puis des fois il y avait Pedretti, des fois voilà. Puis là tout d'un coup, sur cette finale, la ligne Kenin allemande et Holdener, elle devient vraiment intéressante et... On a beaucoup parlé de la deuxième ligne, logiquement. Je dis la deuxième ligne, la ligne de Fuchs, Ria et Kovacs. Mais cette quatrième ligne, allemande, il a 8 shoots au goal.
Mm-hmm.
Sur le dernier, t'es là, tu regardes la colonne, tu fais 8. Ah bah, Suomela là. Puis t'es là, ah bah non, non, c'est allemande. Et je me dis, ouais quand même, on sait de quoi il est capable. Après, il a 30, il est 89, donc il commence à avoir son âge aussi. Mais
il a son numéro de... qui nous aide toujours.
Oui, exactement.
Lui, il est pratique.
Et il vit un peu, bah voilà, papa pour la deuxième fois, il vit sa best life, j'ai envie de dire, comme ça. Kenins, tu l'as aussi pris à l'interview l'autre fois pour montrer aussi son impact. Finalement, Holdener qui complète ses deux joueurs. Il y a de l'expérience, c'est des gars qui savent quoi faire, plus encore Holdener qui est très intense. Cette ligne, elle fait le job finalement, et je me demande si elle aura le même impact à Zurich, en fait, suivant quelle ligne elle peut matcher, puisque effectivement Crawford aura le dernier changement.
Faut pas oublier un petit détail sur ce match numéro 5. Match numéro 6. Détail, c'est pas les Zurichois qui diront ça. Absence de Yannick Weber, qui était le patron sur les 3 premiers matchs, et Rudolf Bassers. On le disait avant le match que probablement ça... c'était pas si dramatique, ils étaient les deux pas là. Harrington est rentré, c'est directement lui qui prend 2 minutes de pénalité et qui provoque l'ouverture du score. Au passage, smart, disons.
Ouais.
Je t'ai dit que c'était Jäger, mais c'est faux.
C'est Suomela.
Hein. Ouais, je me suis trompé.
Ouais.
Bon, je l'ai pas écrit, donc ça va. Suomela, très smart, on va dire. Sur le coup, Harrington prend 2 minutes, bim, 1-0. Devant, il a mis Baltis Berger et Sigris. Il a de nouveau alterné ces deux joueurs sur sa première ligne avec Malguin et André Ghetto. Ça s'est pas si bien passé que ça. Je pensais que ça se passerait un petit peu mieux. Ça veut pas dire que ça ira pas.
Et pourtant, Baltis Berger a marqué, Malguin a marqué. Mais...
Je suis d'accord. Mais ils ont eu énormément de temps de glace en zone offensive. Puis il y a eu beaucoup de shift à vide, je trouve.
Ouais.
On n'a évidemment aucune info si les deux ou l'un des deux pourrait être de retour pour le match. C'est une évidence que si l'un des deux. Et à allez, 70%, 60%, il sera sur la glace, surtout Yannick Weber. Parce que Balcers, ben, finalement, tu te dis, ben, il ne peut pas être remplacé. S'il joue, un étranger ne doit pas jouer. Donc, est-ce que tu préfères un Harrington à 100%, même si c'est un défenseur, plutôt qu'un Balcers à X%? À un moment, il y a une décision qui doit être prise, à moins qu'il soit blessé et basta, on n'en parle même plus. Ça, je ne sais pas, on n'a pas d'infos. Et c'est les playoffs, je n'ai pas cherché en avant.
Non, non.
Tu sais que tu les as pas.
Absolument. Donc plutôt que de se dire ah, il pourrait on va mettre des conditionnels,
on va nous dire c'est 50-50 game time decision quoi. On sait exactement ce qui va se passer. Toujours est-il que ça va être un aspect de ce dernier match, de voir si l'un des deux ou les deux pourraient être de retour. Et c'est sûr, quand tu perds Yannick Weber, même Harrington, il y a cette pénalité, mais à part ça, c'était ok. Moi, j'attendais que Lettonen et Kukan prennent un peu plus de place. J'ai trouvé Kukan un peu meilleur au-delà de son but. Même le match oui. à Zurich, le match 5, je l'ai trouvé bon. Lettonen toujours assez discret.
Moi, tu sais aussi, il y a toujours ces trucs. Des fois, certains joueurs discrets, Grant plus discret. les blessures, à quel niveau tu joues, est-ce que tu joues sous piqûre, infiltration, tu y vas parce que t'es un guerrier, et puis après on te dit finalement ah bah, il est opéré pour une perforation du poumon comme Patrice Bergeron, quoi. Tu te dis non mais...
On m'a dit une fois, à la fin, en play-off, demande-toi qui ne joue pas blessé.
Ouais.
Plutôt que de te demander qui joue blessé. Et depuis ce jour-là, je réfléchis différemment et je me dis, ouais, en fait, ils ont tous quelque chose, à des degrés divers. Et effectivement, on peut se poser la question pour Grant, mais on peut se poser la question pour Souamela, qui n'est pas extraordinaire depuis le début de la série, il a marqué l'autre jour. Mais c'est difficile d'imputer toutes les sous-performances ou toutes les baisses de forme à « Ah, mais il est sûrement blessé ». On ne sait pas, mais tu as raison, hein. Tu as complètement raison de te poser la question. Mais ils ont tous un truc. Ce serait marrant d'avoir un journal de bord très honnête de qui est où physiquement durant une série, et le lendemain du dernier match tu le sors, tu dis ben voilà où on en était, voilà ce qui s'est passé.
Ce qui serait, alors j'ai envie de te dire, je rêverais de lire un truc comme ça dans Blic, et si Lausanne par hasard gagne et pourrait se dire on vous ouvre le livre, en fait notre livre de compte, et vous pouvez regarder et faire un article là-dessus et dire bah voilà, à ce moment-là le 25 mars il s'est passé ça. Mais il a continué à jouer, etc., etc. Surtout qu'en plus, Souamela, il y avait eu cet épisode contre Davos, où est-ce que c'était peut-être une commotion, un truc ? Et tu sais que si c'est...
C'en était une.
Et tu sais que dans les commotions, ils font attention. Oui. Donc, il a été, on va dire, déclaré apte, et ils n'allaient pas se permettre de faire n'importe quoi avec ça. Donc,
on l'a d'ailleurs tout de suite dit. Mais ils ont annoncé une commotion, ils étaient dans le protocole de commotion. Donc... Ouais. Est-ce qu'il y a des séquelles de ça ? C'est possible, mais c'est vrai que de tous les côtés, à mon avis, il y a des blessures. L'impact de Grant est minime. Faut aussi donner du crédit à Lausanne, qui peut-être fait aussi quelque chose de très juste pour l'empêcher d'être bon.
Jouer sport, un jeu de la loterie romande.
Paris sportif, on va pas. Je l'ai dit très fort, comme un peu pour se dire, ce coup-ci, on peut pas dire qu'on était les chats noirs, parce que. Tu avais pronostiqué plus de 4 buts et demi.
Tu sais que j'ai failli mettre plus de 5 et demi, puis j'étais là. Alors,
calme-toi.
Calme-toi, on donne des trucs un peu plus safe à 1,75, je crois, une code de bêtesque que j'ai tenté là, elle a passé. Donc je vais m'inspirer de Jean-Fred.
Et puis j'étais assez confiant sur la victoire lausannoise sur ce match-là. Effectivement, à 5-0, je disais bon. Ça devrait passer, mais t'as quand même toujours cette petite trouille quand il y a 5-1, puis après 2-3, tu te dis... Et finalement, non, c'est passé. On aurait même pu dire Lausanne moins 1, mais là, je trouvais que c'était quand même vraiment exagéré et être un peu trop risqué, parce que j'imaginais pas du tout un tel scénario, de toute façon. Je pense pas que beaucoup de monde avait imaginé un tel scénario, d'ailleurs.
Non, je pense, effectivement.
Il reste plus qu'un match maintenant pour cette capsule Paris.
Zurich 1,85, match nul 3,60, donc match nul, match qui se déroule en prolongation. Et je dois t'avouer que pour notre confort de travail, démerdez-vous pour que ça se termine en 60 minutes, parce que de faire les deux textes en simultané, A est champion, B est champion, youpi c'est le xème titre, youpi c'est le premier titre, dixième pour Zurich en l'occurrence.
Oui.
Donc j'ai juste parlé en chiffres romains, ça arrive de temps en temps. Finissez en 60, s'il vous plaît.
Ouais. Parce qu'en plus, il y a un protocole qu'il faut. Alors, on nous dit. D'ailleurs, c'était assez drôle là, lors de la finale de Zouk Zurich. Forcément, à partir du match 4, il y avait chaque fois le protocole. Alors, si jamais le titre est décerné, voilà ce qui va se passer. Puis, je pense que.
Il y a certains qui ont dû. Samedi, pour les coulisses, j'avais droit à un accès glace pour privilégier avec le journaliste de 24 heures également, Chris Gaillard. On aurait eu droit d'aller sur la glace en premier, récolter les larmes des perdants et les joies des vainqueurs en cas de titre. Du coup, j'ai gardé ça. Il y a des journalistes qui gardent leurs accréditations. Ah oui, ça c'est les Jeux Olympiques 1976, quand j'étais... Ah ouais, elles sont toutes là, classe. Moi, j'ai rien de tout ça. Uh-huh. Et si c'était la seule que je gardais ?
Celle de peut-être.
Peut-être, en cas de titre, t'as le droit d'aller sur la glace si Zurich gagne à Lausanne. Raté.
Et Lausanne, la cote.
Je pense que j'aurais pas l'accès privilégié à Zurich.
À
Zurich, à mon avis, je peux aller me faire mettre.
Peut-être que Blic alémanique aura.
Oui, mais c'est logique à part ça. Lausanne à 3,25. Après, si mes collègues alémaniques l'ont, je pourrais très bien dire winner takes all, on va dire. Prends la crède et l'autre pas. Je risque d'aller marchander ça. Lausanne à 3,25.
Ouais, quand même. Donc 1,85 pour Zurich, 3,25 Lausanne. Hein.
Si vous êtes tenté de jouer le match nul dans les 8 finalissimas, il y a eu 7 matchs qui ne se sont pas déroulés en prolongation. Le seul, c'est 2001, Lugano-Zurich, avec les conséquences qu'on sait.
Morgan Samuelsson.
Regretté, Morgan Samuelsson, qui a marqué le but décisif dans cette rencontre à Lugano, qui s'est fini avec des jets de banc.
Ouais, j'allais dire, ce qu'on se souvient, c'est un banc qui gicle, t'es là, c'est quand même quelque chose.
Je pense qu'il n'écoute pas Colfax, mais j'ai un ami à Lugano de très longue date. Et là où tout le monde était en noir, avec des lunettes, des cagoules et des écharpes sur la bouche, lui, il était en t-shirt blanc en train d'aller lancer des trucs. Je suis pas fier de ce qu'il a fait, mais par contre, il avait pas envie de se cacher ce soir-là. Donc, ceci mis à part, moi j'aime bien me dire qu'il y a très peu de buts dans ce match.
Ouais, j'allais dire ça.
Tu me diras, c'est assez logique. Hein, j'ai regardé sur les 8 derniers, sur les 8 seuls finalissima, il n'y a eu que 2 fois plus que 4 buts et demi. C'est l'année passée,
la dernière,
4-1,
voilà.
Et c'est le Berne Servette 4-1. Sinon, c'est 3-1-0-2, 1-2, 1-2, 1-0, 1-2, donc 1-1 vu que c'était avec prolongation.
Ouais.
Il y a tout le temps. Le problème, c'est que les bookmakers, ils ont vu exactement la même chose que nous. Moins de 4 buts et demi est à 1,80.
Bon, mais t'as fait passer une cote à 1,75. Je trouve que.
Mais moins de 4 buts et demi, hein, c'est peu.
Ouais, ça veut dire qu'il y a 2-2, quoi.
Max.
Hein? Voilà.
Mais ça peut m'intéresser.
3-1, 4-0, 2-2. Enfin, on va pas faire toutes les possibilités, mais. Non.
Ouais. Puis sinon, moi, entre Zurich, match nul de Lausanne, à Lausanne à 3,25, moi, je mets une pièce sur Lausanne à 3,25 plutôt que sur Zurich à 1,85.
Si juste parce que la cote est plus intéressante.
Si je dois choisir... Mais, de toute façon, il suffit d'écouter n'importe qui, nous dira, en finale, c'est 50-50. Donc, il y en a un qui a une cote à 1,85 et l'autre à 3,25.
Voilà.
Voilà, c'est...
Très juste.
C'est quoi? C'est refuser...
appel à son intelligence.
C'est refuser de faire appel à son intelligence, ouais. Non, mais... Et si tu regardes pour parier, on peut aussi parier sur le vainqueur tout court, à savoir champion. Ouais. Zurich à 1,48 et Lausanne à 2,30.
Ok.
Il faudrait une égalité à 1,85, 1,85 ou 1,80, je ne sais plus combien il y a d'égalité sur la Loro, pour avoir. Mais ça existe. Enfin, il n'est pas à l'égalité. C'est Zurich qui est vraiment favori de ce match. Alors que moi, je pense que c'est un bon vieux 50-50, effectivement. Il y a aussi moyen de parier sur les périodes. Ça peut être marrant aussi de s'amuser à se dire mais qui va gagner le premier tiers ? Oh, Lausanne rentre fort dans tous ses premiers tiers. Lausanne, premier tiers, 3,50. Moi, elle me plaît bien, celle-là, par exemple.
Ok, alors j'aurais dit que... Évidemment, j'ai l'impression d'être dans le vestiaire avec Jeff Ward qui dit « Les gars, Zurich va rentrer comme des avions, faites gaffe. » Ou alors peut-être que c'est un match 7, puis ils ont un peu... Tout le monde a un peu comme lors du premier match. Il y avait un peu le frein à main en disant « Attends, on va pas se découvrir tout de suite. » Mais j'aurais plutôt tendance, alors moi, à me dire Zurich. Mais du coup, la cote est moins intéressante, forcément.
Absolument.
La mais...
cote est à 2,40.
Donc, de toute façon, à retrouver...
Et si juste quand même, tu peux faire des combinaisons qui sont déjà proposées. Si tu te dis, moi, je pense que Lausanne gagne, et si Lausanne gagne, il n'y aura pas beaucoup de buts, ou au contraire beaucoup, mais je vais le dire juste après. Lausanne gagne avec moins de 5 buts et demi, 4,65. Mm-hmm. Plus de 5 buts et demi, à savoir Lausanne va encore en planter. Deux dans la cage vide à 3-1, ils mettent encore le 4-1 et le 5-1, 9,40. À l'inverse, Zurich gagne avec un match à moins 5 buts et demi, 2,80.
Ouais. Ça pourrait être une cote qui commence.
À voir sur nos réseaux sociaux ce qu'on a décidé.
Voilà, mardi.
Jouer sport, un jeu de la loterie romande.
On se projette maintenant, on est mardi, on va dire, à 19h55, il y a l'hymne national.
On fait Céline Hockey Manager une dernière fois.
Et qu'est-ce qui se passe pour ce match-là? J'ai une question pour toi. Pour rien te cacher, c'est lors du match de l'équipe de Suisse à vendredi devant 2400 spectateurs. Et je m'étais bien mouillé la nuque, mais je pense qu'il fallait se mouiller plus que la nuque. Il fallait s'immerger totalement pour pouvoir avoir le choc thermique entre les deux, pour pouvoir supporter ça. Un ami me dit, le match 7, s'il y a un match 7, si match 7 il y a, vu que Lausanne a de la peine sur les deuxièmes tiers, est-ce qu'on ne partirait pas dans ta construction d'équipe avec 6 défenseurs au lieu de 7 et 14 attaquants en se disant on a un peu de possibilité de changer puis d'avoir un peu plus. Étant donné que. Puis je dis ouais, mais s'il y a un blessé. Il dit ouais, mais s'il y a un blessé, tu tournes à 5, c'est le dernier match de ta saison. Donc, bon, pff, ils vont de toute façon tout donner. Et j'étais là... Ouais,
quel est l'avantage d'avoir un attaquant de plus ?
De pouvoir mettre soit deux ailiers, soit, je sais pas, d'avoir potentiellement... Tu vois, t'as un Michael Hughley qui joue pas... Est-ce qu'un Michael Hughley un peu buteur pourrait tout d'un coup sortir de sa boîte sur un truc ? On a eu des choses plus débiles. Les matchs 7, ça...
Non,
ça,
je pose la question.
Ouais. Les matchs 7 se perdent souvent, sont pas logiques. Je me souviens de matchs 7 en NHL, des fois, c'est pas forcément les stars qui sont là, c'est plutôt des jolies histoires. Et pourquoi pas, finalement, te dire, tu fais tourner après, bah, tu mets peut-être un sommet là, là, c'est le but du podcast, hein, sommet là avec Hughley Pedretti ou avec d'autres. Et puis après, tu fais tourner. Une fois, tu mets Fuchs, une fois, tu mets un autre. Et puis, pour essayer d'avoir des gars un peu plus frais, finalement. Alors que tout le monde est crevé.
J'entends l'idée, je la partage. Pas justement pour la raison que tu as donnée avant, mais je dis pas que c'est une mauvaise, peut-être que c'est ce que va faire Ward. Hein. Oui, Jelovac a joué 30 et quelques secondes à 5-0, il l'a foutu un shift. Il y a le 5-1, je crois qu'il n'est pas sur la glace d'ailleurs, mais il y a le 5-1, 5-2, après on l'a plus revu. Donc il a mis un shift Jelovac sur la glace. Je crois vraiment que c'est à 5-0 qu'il le met, ou à 4-0. Et oui, il joue à 6 défenseurs. C'est clairement comme ça qu'il fait. C'est comme ça que font beaucoup de coachs nord-américains qui viennent ici. En play-off, je ne vois pas aucun problème avec ça. En saison régulière, je suis toujours un peu à me dire « Ouais, mais attention, c'est quand même un peu long, les 50 et quelques matchs. Jouer à 6 avec tes 3 défenseurs 1, 2 et 3 à 24 minutes, je ne suis pas persuadé. » En play-off, rien à dire, il faut le faire.
Qui plus est sur le dernier match, en plus.
Bien sûr, là, ils peuvent jouer 30 minutes. S'il le faut, ils vont le faire. Il y a trop de risques, je suis d'accord, j'entends cet argument-là, et pour moi, il y a trop de risques à le faire. Et surtout, j'arrive pas à avoir l'avantage de tourner. En gros, tu jouerais à 5 lignes offensives, si on même à 4 lignes, 2 tiers, on va
exact.
Dire. Ça m'a l'air compliqué, ça m'a l'air trop de risques par rapport aux bénéfices. Je pense que le rapport risque-bénéfice est, à mon avis, défavorable.
Et si, mais où ça peut aussi être, finalement... T'es pas satisfait d'un de tes ailiers, on va dire, ou alors tu peux peut-être mettre Bougro, hein, mais t'es pas satisfait de tes ailiers, et puis tout d'un coup tu peux entrer un Hughley, admettons, en se disant bah voilà, j'ai un buteur, est-ce que c'est possible sur la première ligne, je dis n'importe quoi, on se dit ah, mais Théo Rochette là sur le coup, il est je le trouve un tout petit peu, c'est peut-être un poil plus trop pour lui. Weldener, ah ouais, c'est peut-être il arrive pas à donner le maximum, ou peu importe finalement. Sekatch, il est pas, et j'en mets un autre.
Moi, ce que je m'attends pour ce match numéro 7, vu comment je commence à comprendre Jeff Ward et comment il nous parle, alors mm-hmm. après peut-être que je vais être complètement surpris, puis on me dira, c'est de voir exactement le même alignement que lors du dernier match en l'occurrence, parce qu'au match à Zurich il avait mis Salomaki, puis on était totalement convaincus. Alors après on a l'air malin derrière parce qu'ils perdent, donc on peut faire les marioles. S'ils gagnent, on l'aurait quand même dit, hein, on n'est pas comme ça, mais voilà, je dis pas que c'était ça qui avait coûté la victoire. Par contre, Kovacs a été tellement bon samedi soir, et tellement précieux offensivement, que c'est plutôt à ce niveau-là que je peux voir l'aspect d'un coup de boost offensif, peut-être avec un Kovacs qui va plus être porté vers l'avant, qui va être un meilleur manière de rondelle, qui va être un peu plus dirigé vers le but adverse, et donc plus t'es vers le but adverse, moins t'es vers ton but. C'est tout bête, hein. Peut-être qu'un Salomaki, dans ce sens-là, je vois plus l'avantage de mettre un Kovacs à la place d'un Salomaki. Alors que durant ses playoffs, il faisait jouer volontiers Kovacs à la maison et Salomaki à l'extérieur. Mais là, je pense qu'il ne va pas le faire, il ne va pas prendre ce risque-là. Surtout que le dernier match a été perdu à Zurich avec Salomaki à la place de Kovacs. Donc là, je pense que c'est ce qui va se passer. Et j'ai l'impression que de tout ce qui se dégage du vestiaire lausannois, il y a cet aspect, on est tellement convaincus de ce qu'on est en train de faire qu'on va... On va pas se poser de questions, on va pas surréfléchir avant ce match-là et commencer à vouloir faire des choses hors normes. Non, on a un autre plan, on sait exactement ce qu'on doit faire pour gagner. Si ça suffit pas, comme les 3 premiers matchs à Zurich, on aura rien à se reprocher, rien à regretter. Mais par contre, si tu tentes un truc un peu ésotérique, puis au dernier moment, je dis pas que c'est à ce point-là, puis que tu te retrouves à perdre, tu te dis, est-ce que vraiment c'était une bonne idée ? Tandis que si t'as ton plan et tu lui fais confiance jusqu'au bout, tu meurs avec tes idées.
Ouais, mais la question que je me pose, c'est est-ce que Jelovac 30 secondes ou Jelovac 0 secondes finalement, parce qu'il n'est pas là, est-ce que ça change quelque chose ? Tu t'es juste offert une possibilité supplémentaire d'avoir un attaquant en fait.
Avec Jelovac en 7, tu t'offres la possibilité d'avoir un petit coup dur. Parce que tu disais avant, si tu dois jouer 60 minutes ou 53 minutes à 5 parce que t'en as un qui prend un puck, parce que t'en as un qui prend match, ça peut arriver aussi. T'hypothèques sacrément tes chances. Puis là, je peux te garantir que si un coach fait ça et perd, je peux te garantir que c'est lui qui prend tout sur la tête.
Ouais.
Il ne doit pas réfléchir comme ça. Il ne doit pas réfléchir par rapport à « et si on perd avec mon idée, qu'est-ce qui se passe ?» Mais dans les faits, c'est quand même ça. C'est qu'on dira tous « mais non, bah, il fait quoi là ? Pourquoi il n'a pas d'assurance avec un septième défenseur ?» Surtout qu'il a eu joué à 8 durant la saison.
Oui, tout juste.
Donc moi je ne vois pas l'idée, je ne vois pas le truc, mais je me laisse surprendre. Et s'il le fait, on remerciera ton ami pour sa clairvoyance.
Et tu disais ben, pour ce match-là, 50-50, je me demande la pression, parce que je pense à Watt, qui, quand on lui pose la question de la pression, et ce n'était pas avant le match 7, c'était même dans les matchs précédents, puis il dit, mais la pression, en fait, c'est quand on n'est pas préparé. C'est quand les joueurs ne sont pas préparés, parce que tout d'un coup, ils hésitent à faire quelque chose, et ils sont... et de ces hésitations, naissent des sentiments ou des erreurs, finalement. Alors que si tu es préparé, tu n'as pas de raison d'avoir peur. Tu sais ce que tu dois faire. Tu exécutes et t'exécutes plutôt bien parce que tu sais. Et j'aime bien cette façon de faire. Et je pense que sur ce match 7, honnêtement, de nouveau, même si les deux équipes ont dit 50-50, mais la pression zurichoise ou la pression sur Zurich, elle est quand même plus grande que sur Lausanne. Lausanne a encore une fois réussi sa saison. Évidemment que ce serait frustrant d'arriver au tout dernier échelon et échouer, mais vu les circonstances, tu te dis c'est que du bonus quoi.
J'espère qu'il n'y a aucun joueur dans le vestiaire qui pense ça, parce que ce serait le début de la fin. Ouais. Je suis persuadé qu'il n'y en a aucun qui pense comme toi.
Absolument.
Mais tu as complètement raison, je suis d'accord avec toi. Et on parlait avec beaucoup de gens autour de la patinoire à Lausanne qui nous disaient « mais c'est déjà fantastique d'être là, et s'ils perdent ce soir, ben on les applaudira, puis on leur dira merci pour cette saison. » Mais du coup, tu sais que dans le vestiaire, il n'y a personne qui est dans cet état d'esprit. Par contre, globalement, autour du club, il s'est passé un truc extraordinaire ces trois derniers mois, on va dire, ou cette saison globalement, ouais. Mais ça... Tout début de saison, c'est encore même Dianazzi qui nous le disait, ouais, il y avait encore les coins, sur certains matchs, c'était un peu vide dans les zones VIP et puis dans les coins. Là, c'est plein. Bah ouais, ils ont réussi à reconquérir leur public. Puis maintenant, il reste la dernière étape. Je pense que la Vaudoise Arena sera probablement bien garnie aussi pour le public viewing. Nous, on sera sur place à Zurich. Est-ce qu'après 10 minutes, on peut déjà commencer à se dire, ouais, il y a une vraie chance? Parce que pour moi, c'est là où Zurich est prenable. Et si Zurich est brassé dans les 5-10 premières minutes, rappelle-toi l'année passée,
ouais.
1-0 Vatanen à la Xème minute, mais dans les 10 premières minutes, oui. Très rapidement, il fait son coast-to-coast et il va marquer. Ça a enlevé 2,5 tonnes sur les épaules de tous les jeunes voix.
Absolument.
Et derrière, tu te retrouves à courir après le score. Si Lausanne arrive, ne serait-ce qu'à tenir les 10 premières minutes, voire... à tourner en tête après 10 minutes, je peux te garantir que ça va réfléchir sous les têtes adverses. Et oui, bien réussir son début de match, c'est un peu une habitude. Il faut toujours bien réussir son premier match, son début de match. Ça vaut en septembre, en octobre, en novembre. Mais au match 7, c'est capital. Et après 10 minutes, on en saura beaucoup plus, je suis sûr.
J'ai aussi une question et un truc que je voulais aborder. C'est les mises en échec des Lausannois. On a souvent parlé de l'impact physique, mais... Quand ils sont allés checker certains défenseurs zurichois lors de ce match 6, on a vu pas mal d'erreurs. Et est-ce que tu penses que c'est aussi des fois le résultat de précipitation? Parce que tu te dis, ah, mais j'ai un nouveau machin qui va venir, qui va me frapper, pas que ça va me faire forcément mal, mais de nouveau, j'ai vu beaucoup de fois les Lausannois récupérer les pucks, en fait, et les Zurichois être un peu là à dire, j'ai vraiment pas forcément envie d'y aller. Et est-ce que ça peut être un facteur à Zurich si Lausanne rentre de nouveau de la même manière en leur faisant mal, entre guillemets.
Mais à l'inverse, sur la suite du match, c'est complètement inversé. Et Zurich était de nouveau à Zurich, hein, pas au match à Lausanne.
Ouais.
Était à nouveau l'équipe qui osait, qui
agressait.
Allait, qui sortait des bandes avec le puck. Et c'est tout bête, mais c'est quand même comme ça que tu gagnes tes matchs. Et en même temps, je me doute bien que dans le vestiaire, il n'y a pas besoin du coach pour dire « Les gars, vous allez vous battre dans les bandes. » Enfin, je veux dire, c'est une évidence. Mais dans les faits, c'est quand même l'équipe qui va un peu plus aller gratter, un peu plus aller sortir avec le puck. Et oui, si Lausanne arrive à être l'agresseur très tôt, mardi soir, je pense que Lausanne a une vraie chance de s'imposer. Moi, avant la série, j'avais mis 4-3 pour Zurich. Je voyais bien cette série se prolonger et aller en 7, donc je suis déjà content de ne pas être complètement à côté, soit avec un 4-0 ou un 0-4, mais un 4-3, on est déjà bien. Maintenant, si je devais... Je ne vais pas pouvoir changer mon pari de base, vu que je m'attendais à un 7e match, j'avais mis Zurich, quoi, quand j'aurais le droit, hein, c'est pas...
Ouais, ouais.
C'est pas un acte notarié, mais... Je sais, honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'arrive à... Si je parierais, et comme on le disait dans la section Paris Sportif avant... Si je pouvais parier sur Zurich demain, je pense pas.
Ouais.
Je pense que Lausanne a tellement mis le doute dans la tête de à peu près tout le monde et finalement c'est déjà
une victoire.
C'est déjà presque une demi-victoire ou un tiers de victoire. Je pense qu'ils préfèrent une autre victoire demain que celle-ci. Mais j'arriverai pas à mettre de l'argent sur Zurich mardi soir, clairement pas.
Ouais. Pour donner les coulisses aussi, on en parlait en préparant cet épisode. Tu me disais bienvenue dans mon monde. Où on doit préparer les deux scénarios. Il se trouve que pour le match de samedi, vu que Zurich pouvait être champion, pour pouvoir sortir un texte très rapidement sur un peu le portrait, en allemand on va appeler ça le Meisterportrait, il a fallu le faire pour Zurich. Il est prêt, si jamais. Et il y a le portrait qu'il faudra créer pour Lausanne éventuellement. Alors ça, c'est des fois un petit peu chiant parce que tu as l'impression que quand tu fais ces portraits de Bienne, de Genève, que tu peux porter la poisse aux équipes en faisant « Ah tiens, pour Bienne et Genève, vu qu'il y avait 3-3, il fallait avoir les deux possibilités. » Et j'ai mis que c'était pour le portrait de Zurich, c'était enfin la victoire des stars zurichoises. Malgin, Andrighetto, Kukan, Weber, les quatre gars qui sont revenus de NHL.
Hollenstein aussi, tu pourrais rajouter qu'il n'a jamais gagné de titre.
Ouais, mais c'était plus sur la... Hollenstein est là depuis un petit peu plus longtemps. C'était de dire les quatre qui sont allés chercher, que Sven Leuenberger a pris, qu'il a construit cette équipe-là. Et puis évidemment, il les a forcément bien payés. Je pense que ces quatre-là, de joueurs, ils ont, alors si Weber joue, une sacrée pression aussi de la part des... Parce qu'en plus, ils sont... Zurichois, pour en tout cas, ou de la région, hein, pour Kukan, pour Malgin,
pour Andrighetto.
Là, je pense que.
Ce qui est bien, c'est que tu peux écrire, c'est un nouvel échec pour la politique des stars de Sven Leuenberger.
Les starlettes.
Si ça se passe pas bien.
C'est les stars, et si ça se passe pas bien, c'est les starlettes.
Mais il y aurait jamais rien de pire que Copenhague 2018.
Ouais.
Dans la schizophrénie vers laquelle nous pousse ce métier, où on a dû, et toi et moi, écrire l'article « La Suisse est championne du monde, bravo, victoire grâce à un but de XXX » qui aurait pu être Kevin Fiala au passage, mais bon, voilà, Kevin Fiala, on en reparlera peut-être pas aujourd'hui, mais on en reparlera bientôt. Mais du coup, tu dois préparer tes deux scénarios.
Ouais.
Et moi, la première fois que j'y avais été confronté, c'était Vancouver 2010. Alors là, c'est moins impactant parce qu'on n'est pas émotionnellement investi dans l'une ou l'autre équipe. Mais finale, Canada-États-Unis, t'es dans la patinoire, t'as 18 000 personnes qui attendent qu'il se passe un truc. Du coup, le scénario était clair, hein, il était scripté. C'est Hollywood qui avait écrit le scénario. C'est le jeune Crosby qui marque le but décisif en prolongation. Ouais, cousu de fil blanc, cette histoire. Comme demain, quoi. Cousu de fil blanc. On sait déjà, c'est Malgin qui m'a... Non, ça, c'est pas du tout.
Liga Mafia.
Non. Et donc, j'avais les deux textes, là aussi.
Ouais.
Parce que tu sais que t'as des attentes, t'as des délais de bouclage, et tu peux pas te dire « Ah, oh, je fais une heure et demie pour bien réfléchir. » Est-ce que maintenant, tu dois envoyer des trucs à un moment X, et à un moment donné. Et au passage, en parlant de héros improbables, on fera un article dans Blick avec mes trois collègues de Zurich et nous deux en Suisse romande avec Mathias sur... qui sera le Meisterheld? Parce qu'il y a toujours un héros improbable. On parlait de Mark Morgan, Samuelson avant. Steve McCarthy à Berne, ça fait aussi partie des héros improbables. Des fois, c'est pas aussi flagrant que ça. Il y a eu Robin Leblanc aussi qui fait partie des héros, on va dire, improbables. Quand c'est Vatanen qui met un coast-to-coast après 5 minutes, c'est un peu différent. Mais il y a souvent quand même cette histoire assez drôle. Je vous laisserai découvrir qui est mon Meisterheld mardi dans Blick. Et donc, on a arrondi à 40 épisodes
cette saison
grâce à ce match. On l'aurait de toute façon fait à ce 40. On va faire 41e du coup épisode probablement mardi. Ça dépend de nos agendas respectifs. Mercredi, ça dépend de nos agendas respectifs. D'ici là, profitez bien de ce match numéro 7. bonne chance aux Lausannois et puis que le meilleur gagne. C'est ce qu'on dit en fait dans des cas comme ça, non ?
Exactement.
Nous concernant, on est à ta disposition pour répondre à vos questions.
Il y a une question d'ailleurs hein, d'Arthur Bosson. On n'oublie pas sur les simulations, mais on n'avait pas tellement le temps de la faire aujourd'hui.
On doit aller à l'entraînement du LHC.
Exactement.
Mais on la garde. Merci d'ailleurs. Et n'hésitez pas à vous abonner sur nos différents canaux. Moi, je privilégie Spotify, qui est le plus simple, pour savoir quand il y a des épisodes qui tombent. Ça doit être possible sur d'autres plateformes, mais pour moi, c'est la plus simple si on est abonné Spotify. Il y a même quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, mais je ne savais pas qu'il y avait des podcasts sur Spotify. Je dis, pour moi, c'est... J'écoute presque plus de podcasts que de musique sur Spotify.
Exactement. Et pourtant,
j'écoute beaucoup de musique, mais
pareil.
Il y a presque plus de podcasts encore. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. En mettant une notification, on peut voir également quand l'épisode tombe.
La petite cloche, comme
voilà,
tu dis.
Surtout en play-off où c'est pas le mercredi à 17h de manière métronomique, mais ça peut un peu venir un peu n'importe quand. Donc, c'est toujours une option. Et à bientôt.
À bientôt.